marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. Une émission enregistrée à Paris Livre dans notre studio RFI, installé sur le stand de l'Institut français.
Je devais partir et c'est Matsukota qui essayait de me retenir en me disant tu ne peux pas partir et tout laisser. Et moi je voyais plus ce qu'il y avait à laisser, donc j'avais décidé de partir. Et au fond, ce qui s'est passé, le drame, la tragédie de sa mort et de la mort de mon oncle m'a libérée parce que je ne me suis plus sentie du tout responsable de quoi que ce soit. J'ai dit après tout, je m'en vais faire ma carrière aux États-Unis et je suis partie.
Aimée Mambouni Ali est une femme libre. Elle est la première bachelière de l'Afrique équatoriale française. Elle est l'une des rares étudiantes à avoir des responsabilités au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Elle devient députée à l'Assemblée nationale révolutionnaire du Congo indépendant, puis directrice générale de l'enseignement. Elle quitte le Congo pour l'UNESCO et défend le droit à l'éducation et à la condition féminine à travers l'Afrique pendant une vingtaine d'années. Et c'est finalement dans les années 90 que Aimée Mambouni Ali reprend des responsabilités politiques au Congo. D'abord à la mairie de Pointe-Noire où elle est adjointe au maire, puis en tant que ministre de la Culture en 1997. Aujourd'hui opposante au régime de Sassou Nguesso, Aimée Mambouni Ali est une intellectuelle congolaise de talent, comme l'écrit l'historienne Françoise Blum, une personnalité exceptionnelle à l'itinéraire tout aussi exceptionnel. Au son de la ville de Pointe-Noire, la marche du monde est à Paris Livre, où votre pays, le Congo, est à l'honneur, Aimée Mambouni Ali, ou plus précisément deux villes congolaises, Brazzaville, la capitale, et Pointe-Noire, dont on vient d'entendre la bande-son, le centre économique du pays. Bienvenue sur RFI.
Merci beaucoup.
Brazzaville, Pointe-Noire, deux villes propices aux rêves et à l'imaginaire, puisque la première, Brazzaville, celle de votre naissance en 1935, est riche de l'histoire coloniale et se reflète dans les eaux mythiques du fleuve Congo, face à une autre capitale, Kinshasa, la capitale de la RDC. Je salue tous les auditeurs qui sont de part et d'autre du fleuve et qui nous écoutent. Et puis l'autre ville, c'est Pointe-Noire, à l'extrême sud du pays, face à l'océan, puisqu'elle se situe sur le littoral Atlantique. Elle est très autonome de Brazzaville et relativement épargnée de la guerre civile. Et c'est là que vous vivez. C'est la ville, peut-être, de votre vie quotidienne, Aimée Mambouni Ali, où vous avez d'ailleurs longtemps enseigné, je crois.
Non, pas très longtemps. J'ai enseigné plus longtemps à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Mais j'ai commencé ma carrière à Pointe-Noire, au lycée Victor Auganière.
Et Pointe-Noire, c'est la ville de votre vie quotidienne?
Disons maintenant, oui, c'est la ville de ma vie quotidienne. Sinon, je suis née à Brazzaville.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que représente chacune de ces deux villes dans votre vie de femme engagée?
Brazzaville, c'est la ville des bagarres, c'est la ville de la révolution. Pointe-Noire, c'est plus calme, c'est plus propice à la réflexion. Et c'est la ville de ma famille, en fait.
Ouais. Alors, une troisième ville compte énormément de votre itinéraire militant. C'est Paname, c'est Paris, capitale de la France impériale. Et c'est dans un Paris de la fin des années 50 où, je vous cite, « tout était vachement positif ». Que vous avez milité à la Féanfe. Pourquoi vous gardez de ce Paris militant, étudiantin, syndicaliste, un rapport comme ça où tout était vachement positif? Apparemment, c'est un des vocables que vous utilisiez entre étudiants
à la Féanfe. Oui, c'était le vocabulaire des gens qui militaient à la Féanfe. C'est vachement positif. Ah, ça, c'est positif. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on parlait à la Féanfe.
Alors, vous écrivez dans votre premier livre, Beto Nabeto, le poids de la tribu. J'entrais donc à la Féanf, que je connaissais comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Explication de texte, Aimée Mambouni Ali.
Eh bien, je ne connaissais pas. J'étais à Paris depuis donc 2 ans déjà. Et je n'avais pas entendu parler. Bon, faut dire que j'étais au foyer de la lycéenne et on parlait boulot là-bas. C'était une atmosphère de concours. On parlait de son boulot, on parlait du travail, on parlait des profs, etc. Mais on parlait pas de politique du tout. Et c'est quand j'ai rencontré Matsukota qu'il m'a parlé de la féance. Enfin, alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que la féance ? T'es outré. Je ne connaisse pas la féance.
Et aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, en deux mots, vous diriez que c'était quoi, la féance ?
Ah, c'est là où on se forme au militantisme.
Alors pour poursuivre sur ces années de votre jeunesse, j'ai convié l'historienne Françoise Blum, auteur de votre notice biographique dans le dictionnaire Métron Afrique, biographie d'une femme remarquable à découvrir sur la page RFI.fr de la Marche du Monde, une émission enregistrée à Paris Livre dans notre studio RFI, installé sur le stand de l'Institut français. Voilà, tout le monde danse déjà dans le studio RFI installé sur le stand de l'Institut français de Paris Livre. C'est le nouveau nom du salon du livre. Merci Françoise Blum de nous avoir rejoints.
Merci à toi Valérie de m'avoir invitée avec Aimé.
Voilà, avec Aimé. Et je dois dire d'ailleurs que vous êtes allée jusqu'à Pointe-Noire pour rencontrer Aimé Mambou Niali chez elle. J'aimerais bien avoir quelques mots sur l'ambiance, des lieux.
Non, mais c'est avec plaisir, d'autant plus que j'en garde un souvenir très heureux. J'étais descendue au centre de Pointe-Noire dans un hôtel et quand j'ai été retrouver Aimé Mambou Niali dans sa demeure familiale, j'ai eu l'impression d'un havre de paix plein de verdure et ça m'a fait un bonheur de détente incomparable, d'autant plus qu'ensuite nous avons passé une journée dans un petit restaurant de bord de mer à bavarder et que c'était aussi un très grand plaisir.
Voilà, et donc aujourd'hui, Françoise Riche, justement, de ce travail biographique sur Aimé Mambou Niali, vous allez pouvoir, à votre tour, lui poser quelques questions, notamment sur ses jeunes années.
Aimé, je vais commencer par, le tout début. Tout à l'heure, Valérie a parlé de votre séjour d'études à Paris, mais il me semble que vous êtes venue en France pour vos études plutôt encore avant même le bac et que vous avez été, si vous pouvez nous en dire un mot, même à Orléans.
Oui. Alors, je suis venue à Paris l'année de mes 12 ans. Donc, je venais passer le certificat d'études à Brazzaville et je suis venue faire mes études secondaires ici. Je dois dire que, à l'époque, personne n'avait l'idée d'envoyer des filles, surtout en France, faire des études secondaires. Et là, c'est mon père qui lui-même était un ancien de William Ponty, mais moi j'ai toujours connu mon père comptable, mais il a commencé comme instituteur.
William Ponty, c'est l'école pour les garçons à Dakar, au Sénégal.
Oui, l'élite. Donc c'est là où on formait les instituteurs, puis les médecins africains. D'ailleurs, la première année de la formation des médecins, c'est l'année où mon père est arrivé à William Ponty. Et on est passé leur demander quels sont ceux d'entre vous qui voudraient faire de la médecine plutôt que l'enseignement. Et c'est là que les Houphouët-Boigny, etc., se sont décidés pour la médecine. Et mon père et mon oncle Chikaya, le père du poète Outamsi.
Joli lapsus.
Eux sont restés dans la formation instituteur. Alors donc mon père, encouragé par mon oncle Chikaya, qui disait il faut que les enfants fassent des études, que ce soit des filles ou des garçons, peu importe, il faut les envoyer en France si vous en avez la possibilité, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Il y avait l'école secondaire à Brazzaville, mais qui s'ouvrait à peine aux Africains. C'était une école secondaire où il y avait surtout des Blancs. Donc c'est comme ça que je suis venue en France et j'étais interne au lycée Jeanne d'Arc d'Orléans parce que mon oncle disait Paris c'est une ville de perdition, il ne faut pas garder les enfants à Paris, il faut qu'ils aillent en province. Alors voilà, nous sommes allés à Orléans qui dépendait à l'époque de l'Académie de Paris, donc On avait le label de Paris tout en étant en province, dans un petit coin bien tranquille.
Françoise Mais Blume. Ceci dit, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas le bac en France. Vous retournez au Congo, à Brazzaville, et c'est là que vous passez le bac et vous devenez la première bachelière en territoire d'AEF.
Ils ont une expression à liaison, ils appellent ça la première en AEF. Parce qu'à l'époque, tous les AEFiens, donc Tchad, Oubangui, Gabon, venaient passer le bac à Brazzaville, au lycée Savoyant du Brazza cette fois. Donc je passe le bac là, je suis la première à sortir de Savoyant du Brazza, mais j'ai été précédée d'un an par Hélène Bouboutou qui, elle, était venue en France envoyée par... les femmes de l'Union française, et notamment Madame Jeanne Vial.
Alors donc, on apprend aujourd'hui sur un RFI de la Marche du Monde que Aimé Mambounyali est la première bachelière AEF du Congo.
Exactement.
Bac passé de l'AEF. Au Congo.
De l'AEF.
De l'AEF, passé au Congo.
Après le bac, donc passé à Brazzaville, vous retournez pour vos études supérieures en France, et là, vous retrouvez quelqu'un dont on a déjà prononcé le nom tout à l'heure, Lazare Matsukota, à qui vous allez plus tard dédier un livre. Béton à béton, le poids de la tribu. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était Lazare Matsukota et qu'est-ce qu'il a été pour vous?
Bon, Lazare Matsukota, je l'ai rencontré au lycée Savoyant de Brazza, bien sûr, puisque nous venions tous de là. Tous les bacheliers de l'AEF venaient du lycée Savoyant de Brazza. Alors, moi, quand j'arrive au lycée Savoyant de Brazza, Brazzaville, je suis en seconde. Au milieu de la seconde, je suis arrivée au mois de mars, à peu près. Et eux, à l'époque, ils étaient en première. Et quand je passe en première, donc, Matsukota est en terminale. Mais on se retrouvait... pendant les récréations, alors il y a une caractéristique du lycée Savoyant dont je parle d'ailleurs dans le livre, c'est qu'on ne s'amusait pas au lycée Savoyant de Brazza.
Moi, mais ça rigolait
je
pas,
venais hein. du lycée d'Orléans où on jouait encore au bar, à cache-cache, etc. Au lycée, on discutait. Et alors, suivant évidemment la classe, alors nous, on était avec non seulement ceux de première, mais ceux de terminale aussi, alors on bavardait là. Moi, j'étais évidemment la seule fille, puisque les autres filles étaient en cinquième. Les plus avancées étaient en cinquième, quand j'étais en seconde, moi. Donc, je discutais surtout avec des garçons. C'est comme ça que j'ai connu Matsukota, Miyakanda, Baba Idara, d'ailleurs, qui sera plus tard le père de ma fille, et puis voilà.
Et vous vous êtes retrouvée avec Lazare Matsukota, justement,
à Paris.
Et c'est bien lui qui vous a initié à la FEANF. La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Donc Lazare Matsukota, secrétaire général et délégué de la FEANF, au centre de votre premier livre, Béton à Béton, aux éditions Gallimard, dans la collection Continent Noir, Aimé Mambounyali, un récit préfacé par Lopez. Henri Lopez, l'écrivain congolais du métissage, ambassadeur du Congo en France de 1998 à 2015. Je suis allée le rencontrer ce matin. Et il m'a dit vous avoir encouragé à écrire Béton à Béton.
Il m'a encouragé à le publier, disons. Parce que je n'osais pas, mais c'est tout pas à écrire, je l'ai écrit. Et c'est grâce à lui d'ailleurs, c'est lui qui m'a introduit chez Gallimard. Il m'a dit, tu veux que je te le publie? J'ai dit, si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un. Et il en a parlé à Schifano, qui, voilà.
C'est absolument ce qu'il m'a expliqué ce matin. Et vous citez Henri Lopez dans votre livre. Oui. Vous reprenez ce qu'il écrit sur Lazare Matsukota. Parce que Lopez, lui, était au Festival de la Jeunesse de Vienne.
Voilà, moi je n'y étais pas.
1959. Et voici ce que vous reprenez donc des mots d'Henri Lopez dans votre livre Béton à Béton, le poids de la tribu. Grand, large d'épaule, il avait un port de tête de sénateur romain et le visage sculpté dans une pierre noire. On aurait dit un Orson Welles, de couleur. Je le reconnus avant même que son nom ne fût prononcé. Lazare Matsukota. Magistral, intraitable. Il nous infligeait une leçon de présidence et souvent de morale politique, veillant à donner la parole non seulement à ceux de sa mouvance idéologique, mais aussi aux adversaires, se hâtant de rétablir chaque fois que de besoin ce qu'il pensait être la ligne, mais refusant toujours la polémique ou l'argument de ruisseau. Il modérait, il professait à la fois, ne manquant pas à l'occasion d'exalter les cœurs par des morceaux de bravoure bien réussis. Il y excellait d'autant mieux et avec charme qu'il était servi par une voix basse, bien timbrée. D'où un tantinet cabotin, il connaissait le pouvoir et utilisait volontiers les ressorts. Depuis lors, chaque fois que j'entends le mot « tribun », c'est à Matsukota que je pense. En l'écoutant, j'imaginais Jaurès haranguant les foules. Je ne crois pas que le Congo ait produit depuis un seul orateur de cette étoffe. Il appartenait à la lignée de ceux qui trouvaient dégradant d'utiliser le micro. Ainsi donc, écrit Henri Lopez, nous avons la possibilité, nous, les nègres, de nous hisser sur la scène internationale et d'y faire pâlir ceux qui pensaient que nous n'en étions pas dignes. Alors, Henri Lopez est actuellement en convalescence. Néanmoins, il nous parle sur RFI.
J'ai connu Mambou et Meniali à Paris. On était très peu d'étudiants congolais à l'époque. Et c'est elle qui m'avait parlé de Matsukota. Avant que je fasse sa rencontre la première fois au festival de Vienne. Et il était, pour nous deux en tout cas, comme une espèce de modèle. Nous l'appelions le maître. C'était un garçon absolument fascinant. Ça a été un très grand gâchis que sa perte. Souvent, je me dis que le Congo a perdu un de ses cadres qui avait une dimension particulière. Même si ce ne sont pas les individus seuls qui font l'histoire, il y en a qui lui donnent une marque particulière. On ne lui a pas donné le temps de prouver ce qu'il savait faire.
Henri Lopez témoigne sur RFI, malgré ses soucis de santé. Je le remercie vivement. Il se remet doucement, mais sûrement. Il a été subjugué par Lazare Matsukota, avec lequel vous avez vécu une grande histoire d'amour. Aimé Mambou Niali, et avec Françoise Blum, nous avons été frappés par la grande liberté de ton de votre livre hommage à Lazare Matsukota. Françoise Blum.
Oui, Aimé, vous apparaissez dans votre livre comme une femme libre qui a des aventures. Il y a eu évidemment Lazare Matsukota, mais pas seulement Lazare Matsukota, le père de votre fille, dont vous avez dit un mot tout à l'heure, Aïdara. Abdelkader Fall aussi, qui était aussi à la Féance, qui sera plus tard ministre de l'Éducation nationale au Sénégal. Mais était-ce si courant à l'époque pour une femme d'avoir de telles aventures, et j'allais dire surtout de les raconter?
Non, pas du tout. Même maintenant, d'ailleurs.
Et qu'est-ce que la publication de votre livre a suscité au Congo, par exemple? Est-ce qu'on a été étonné? Scandalisé?
Pas vraiment, parce que on me connaissait un petit peu. On savait que je n'étais pas un peu hors norme, quoi.
Et on l'acceptait.
Par la force des choses, oui.
Et vous vous êtes jamais mariée par la suite? Pourquoi?
Non. Je n'ai pas trouvé. Non, mais j'ai une conception de l'homme qui n'est pas celle de tout le monde. Enfin, surtout celle des Congolais.
C'est-à-dire
D'abord, moi, j'ai eu un père. Vous en avez eu un avant-goût. Le fait de m'envoyer faire des études en France, à l'époque, ça ne serait jamais venu à l'idée de qui que ce soit d'aller perdre de l'argent dans l'éducation d'une fille. Donc, je n'ai pas été élevé dans un milieu sexiste. Moi, quand j'entends les femmes parler de leur enfance, je suis surprise parce que mon père n'était pas comme ça. Moi, tout ce qu'on reproche aux parents, je n'ai pas connu ça. Donc, voilà, j'avais une autre idée, une autre vision. Et ça, je savais que je ne le pourrais... J'aurais pu le trouver avec Matsukota, mais avec aucun autre homme. Donc, c'est pas la peine d'essayer quand on sait d'avance qu'on va se casser la figure.
Vous auriez pu trouver cette conjugaison des sexes avec Matsukota.
Oui.
Et on va comprendre pourquoi, finalement, cette histoire n'a pas pu se conclure, en tout cas par les liens du mariage. La Marche du Monde est à Paris Livre avec Henri Lopez, Françoise Blum et bientôt Héloïse Kériakou. Nous vous proposons un portrait sonore de notre invitée congolaise, l'écrivaine Aimé Mambou Niali, actrice et témoin privilégié du pouvoir de la jeunesse congolaise.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée à notre invité, Aimé Mambouni Ali, figure historique du pouvoir de la jeunesse congolaise des années 60. Nous sommes au Salon du Livre, rebaptisé Paris Livre, où Brazzaville et Pointe-Noire sont à l'honneur, deux villes repères dans l'itinéraire militant de la première bachelière de l'AEF, auquel il faut ajouter Paris, où Aimé Mambouni Ali, vous l'avez entendu au début de cette émission, a milité à la FEANF aux côtés de son mentor et amant, Lazare Matsokota. Vous écoutiez beaucoup de musique dans ces années 60, Aimé Mambouni Ali?
Oui, oui. Et là, c'est Lucie Yenga, là.
Alors, racontez-nous.
On ne faisait que ça, si je puis dire. À part la FEANF, les discussions politiques, ben, dans les chambres, chacun avait un magnétophone, un électrophone, avec des disques, d'un peu partout quand même. On découvrait le monde. Hein. On avait les disques congolais, mais on avait aussi les américains, Lindsay Applewood, je ne sais plus comment s'appelle cette femme qui chante cette chanson-là, elle était très célèbre dans ces années-là.
Vous alliez la chanter, chantez-nous-la.
Lindsay Applewood, just me.
John Baez.
Non, il y en avait une autre avant. Et puis,
donc, bah, est-ce que vous voulez dire les protestes songs américaines?
Oui, américaines, oui, voilà, c'est ça. Et puis, la musique cubaine, c'est ici qu'on a découvert Cuba et tout ça.
Voilà, et entre deux pas de danse, Aimé Mambouni Ali, vous avez été initié au marxisme par Lazare Matsokota. Vous écrivez d'ailleurs que la lecture de Engels vous endormait invariablement au bout de trois quarts d'heure, mais que vous avez quand même tout compris avant de vous endormir. Vous êtes un peu prétentieuse, hein, moi je trouve. Hein.
C'est-à-dire que ce n'était pas aussi compliqué que ça. J'avais l'impression que c'était hermétique. C'est pas hermétique, Engels n'est pas hermétique.
On voit aussi votre intelligence et votre capacité à intégrer justement ces théories marxistes. Vous n'êtes pas quelqu'un qui reproduit un discours qu'on vous mâche, mais vous avez l'intelligence de ce que vous lisez et surtout un regard critique sur ce que vous lisez.
Tout à fait. C'est-à-dire que il faut en prendre et en laisser. Et je crois, d'ailleurs, le tort que nous avons eu, nous, quand on a implanté notre socialisme, c'est d'avoir voulu faire comme en Russie, comme Staline, etc. Alors que ça ne cadre pas avec notre mode de vie, notre mode de pensée, etc. Il fallait adapter le socialisme, mais on n'a pas voulu le faire. Ou on n'a pas pu, ou peut-être que les gens... Je crois que très peu de gens avaient assimilé finalement cette histoire-là. Et on s'est cru obligé de s'embarquer là-dedans sans rien y comprendre, et on l'a payé cher.
Et Matsokota, à l'époque, Lazare Matsokota, que tout le monde appelle Matt, réfléchit donc à ce marxisme appliqué à l'Afrique, vous en discutez des nuits entières, et pour lui, c'était synonyme de lutte contre le particularisme. Mmh. Et donc, on revient au poids de la tribu, Abeto Nabeto, c'est le titre de votre premier récit. Alors, c'est quoi justement ce poids de la tribu dans cette jeune nation congolaise, Aimé Mambouni Ali? Expliquez-nous.
Le poids de la tribu, c'est-à-dire on n'a pas compris que pour faire une nation, il faut surmonter certains obstacles. Et on prenait l'habitude de vivre un peu comme si on était encore au XVIIIe siècle, chacun dans sa tribu, chacun dans son village, alors que le pays s'était agrandi. Bon, moi je suis née à Brazzaville, donc ce qui se passe à Pointe-Noire, à la limite, m'intéresse. Mais je vais dire que ma vie, elle est à Brazza et il faut que je me fonde dedans. Et puis, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on ne peut pas vivre comme on vivait dans les villages d'autrefois. On allait tous dans le même lycée, mais... Une fois rentré chez soi, chacun retrouvait, les autres c'est des imbéciles, il n'y a que nous qui sommes bien, etc. C'est ça le poids de la tribu, c'est de penser le monde et le pays en fonction de ce qu'on pense dans notre petit milieu, dans notre... alors que bon, le pays appartient à tout le monde et tout le monde doit s'y retrouver. Et bon, on crée des barrières artificielles là où ce n'est pas nécessaire.
Et justement, à l'époque, c'est au fond ce que vous reprochez avec Matt au premier président du Congo indépendant, hein, c'est-à-dire Fulbert Youlou, qui est par ailleurs cousin germain de Lazare Matsokota. Et Fulbert Youlou s'appuie et favorise son clan Lari, un clan qui se considère comme le peuple élu. Alors, pour tous nos auditeurs qui ne sont pas congolais, même si on embrasse tous les Congolais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, ce clan Lari? Pourquoi serait-il le peuple élu du Congo?
Ben, c'est eux hein, qui se considéraient comme étant le peuple élu. Parce que, d'abord, il faut dire qu'ils ont des qualités qu'on ne trouve pas partout. Quand ils sont engagés, ils s'engagent vraiment à fond. Et ils n'ont peur de rien, la mort, rien ne les arrête. Bon, ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez les Vili. Hein, assez trouillard.
Vous êtes Vili.
Oui, c'est pour ça que je me permets. On est assez trouillard, assez lâche même, quelquefois. Alors que les autres ne sont pas du tout comme ça. C'est des gens qui sont prêts à aller jusqu'au martyr. Hein, c'est ça un peu leur côté, justement... peuple élu, etc. C'est que, bon, quand ils embrassent une cause, bon, ils la défendent jusqu'au bout.
Et vous écrivez d'ailleurs que pour Matt, Youlou a remis la tribu au pouvoir, et ce jusqu'au dernier moment. Youlou va convoquer ce thème très fort de l'appartenance à la tribu jusqu'à l'avant-veille de la révolution des Trois Glorieuses. Vous rapportez un discours de Youlou, page 72 de votre livre Beto na Beto, donc le poids de la tribu. J'en donne un très très court extrait. Nous sommes le 13 août. Nous sommes le 13 août 1963. Et le président Youlou tente un dernier recours auprès de sa tribu dans un discours en Lari. On vous le donne en français. C'est vous qui m'avez choisi, j'ai combattu, travaillé. Voilà que les autres tribus trouvent à redire. Que cherchent donc les Lari en venant détruire ce qu'ils ont eux-mêmes mis en place? Sachez que le pouvoir est en train de nous glisser entre les mains. Réalisez vous-même que les actes que vous venez d'opposer sont attristants. Qui sont ces citoyens qui aiment leur chef et lui font la guerre? Détrompez-vous. Ceux qui me combattent ne le font pas pour vous, mais pour leur propre intérêt, pour leur argent. Ils ne voient pas le travail que j'ai pu réaliser. Et c'est un président qui parle.
Et malheureusement, ça continue.
Jusqu'où va peser ce poids de la tribu dans votre relation avec Lazare Matsokota?
De mon côté, pas de problème. C'est de son côté à lui. Parce que, évidemment, étant donné ses qualités, etc., tout le monde s'attend à ce qu'un jour il prenne le pouvoir. Et les gens de sa tribu ne conçoivent pas le pouvoir avec quelqu'un qui n'est pas de leur tribu. C'est ça, notre problème.
Et ce qui est votre cas. Donc il est Lari, vous êtes Vili. Voilà.
Du monde, Valérie Nivelon.
Les années 60 en Afrique sont les années de tous les bouleversements. Ce sont les indépendances. Les jeunes étudiants partis se former en France rentrent au pays. Ils veulent participer à la construction nationale. Mais les aînés sont là, bien en place, et la jeunesse africaine prend la parole et elle conteste. Mais ce qui est extraordinaire au Congo, c'est que la jeunesse prend le pouvoir. Et ça, c'est un cas d'école pour l'historienne Héloïse Kiriakou, qui nous rejoint dans ce studio RFI installé sur le stand de l'Institut français au cœur de Paris Livre. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Je suis ravie de susciter cette rencontre avec Aimé Mambounialy. Que représente Aimé Mambounialy pour vous dans ce processus historique dont la jeunesse congolaise est le fer de lance?
Alors, tout d'abord, je trouve que c'est un honneur pour moi donc d'être sur ce plateau avec Aimé Mambouniali. C'est une des rares figures féminines de cette époque, une des rares voix qui aujourd'hui nous parle de ces années d'espoir que sont ces indépendances africaines. Et je dirais que son tempérament, qu'on ressent encore aujourd'hui lors de l'émission, nous donne de l'espoir à nous autres jeunes encore.
Merci Héloïse. Et vous avez quelques questions à poser sur l'expérience révolutionnaire de Aimé Mambouniali. C'est à vous.
En tant que première femme députée en 1963, est-ce que vous avez eu un rôle particulier à jouer à l'Assemblée nationale ?
Non, pas du tout. On est trois femmes, et de chaque région d'ailleurs. Il y a moi pour les Vilis, il y a Pierrette Loubaki pour le Pool, justement, la tribu de Matsokota, et il y a une femme du Nord, Micheline Golengo. Voilà, donc vous voyez, on retrouve toujours cet équilibre, ce souci d'équilibrer entre les tribus, etc. Bon, donc nous sommes trois, je ne suis pas seule. Alors qu'est-ce que ça représente ? Ben, c'est la première fois qu'il y a des femmes. Bon, il faut dire que jusque-là, il n'y avait jamais eu beaucoup de... le premier débuté, c'est mon oncle Félix Chikaya, le père du poète. Et à cette époque-là, il n'y en avait qu'un, parce que ça se passait ici, en France. Et puis, aux indépendances, bon, il y a eu effectivement des députés, mais tous des hommes. Donc, c'était la première fois qu'il y avait trois femmes. On devait être une trentaine de députés, et nous étions trois femmes. Et alors, justement, on l'a fait exprès, parce que nous, on n'a pas choisi. Hein, on n'a pas fait campagne, etc. C'était le bureau politique qui décidait. Donc, on avait choisi trois femmes, une dans chaque région. Et on ne pouvait pas ne pas être élu. Du moment qu'on nous avait mises là, on devait être élu et on a été élu. Voilà.
Quel était pour vous un des épisodes les plus marquants de votre période à l'Assemblée nationale ? Est-ce que ça a été, par exemple, la nationalisation de l'enseignement, une loi qui vous a marqué un moment ?
Bon, merci de parler de cette loi parce qu'on me l'a mis sur le dos et quand elle a été votée, je me trouvais aux États-Unis.
Alors, j'insiste. Alors, il faut dire la vérité aujourd'hui.
Bon, donc, elle est venue en première lecture au mois de mai. Parce qu'on n'avait que deux sessions. Une session budgétaire en octobre et une deuxième session en mai. Ce n'est pas comme maintenant où ils siègent toute l'année, parce qu'évidemment, ça leur permet de toucher des perdièmes.
Et bon, blanc.
Je dois dire d'abord qu'à l'époque, les députés n'étaient pas payés. C'était gratuit. On ne touchait que des perdièmes le temps qu'on passait à l'Assemblée. Et quand vous n'étiez pas là, ben, vous ne touchiez rien. Voilà, donc le problème de la nationalisation de l'enseignement, je vais vous dire ce qu'il y a dessous. Nous avions un enseignement privé, catholique surtout, et un enseignement laïque. Et ceux de l'enseignement privé étaient moins payés que leurs collègues de l'enseignement public. Et ils ont voulu profiter de la révolution pour... se faire aligner sur les autres, donc gagner plus. Et alors c'est eux qui ont poussé à la nationalisation de l'enseignement. Ça, on ne le dit pas assez, on me met ça sur le dos. C'est pourquoi je vous remercie de me donner l'occasion de m'expliquer. Donc, alors c'est arrivé en première lecture à l'Assemblée au mois de mai, j'étais là. Mais quand la loi a été votée au mois d'août, j'étais depuis un mois aux États-Unis. Je suis partie en juillet. J'en parle dans le livre. Je devais partir, et c'est Matsokota d'ailleurs qui essayait de me retenir en me disant « tu ne peux pas partir et tout laisser ». Moi, je voyais plus ce qu'il y avait à laisser. Donc, j'avais décidé de partir. Et au fond, ce qui s'est passé, le drame, la tragédie de sa mort et de la mort de mon oncle, m'a libérée, parce que je ne me suis plus sentie du tout responsable de quoi que ce soit. J'ai dit « après tout, je m'en vais faire ma carrière aux États-Unis et je suis partie ». Et c'est à ce moment-là que ça a été voté. Et quand c'était passé en première lecture, j'étais de ceux qui étaient contre. Parce que mon oncle Chikaya nous avait toujours dit « si les curés ont fait quelque chose de bien en Afrique, c'est l'école ». Et moi-même d'ailleurs, je vous ai dit que quand je suis venue en France, j'avais déjà passé le certificat d'études. Mais j'ai fait mes études primaires chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. J'en parle aussi dans le livre. Donc moi, je sors de l'enseignement catholique et la plupart des élites de l'époque sortaient des écoles missionnaires. Tister Chikaya et tous les grands, là, ils ont été à l'école des prêtres ou des sœurs. Voilà.
Alors sur cette question de cette jeunesse turbulente et bouillonnante, et on l'entend encore aujourd'hui dans les accents de votre voix, Aimé Mambouniali, en quête de pouvoir, je vous propose d'entendre ce qu'en pense Henri Lopez. Nous l'avons déjà entendu au début de cette émission, il revient sur son expérience congolaise, malgré la fatigue de sa voix.
Il y avait plusieurs jeunesses. Il y avait la jeunesse qui était sur place, qui était surtout active dans des mouvements tels que le scoutisme. Et puis il y avait la jeunesse qui était à l'étranger. C'était mon cas. Les étudiants qui avions été habitués à plus de politisation sans songer à la prise de pouvoir. Ma vision des choses est que le pouvoir était très faible. Il est tombé en 3 jours, surtout du fait des syndicalistes et des jeunes. Mais ces syndicalistes étaient eux-mêmes très jeunes. Il y a eu, sous diverses formes, une arrivée des jeunes au pouvoir. La révolution a lieu en 63. Je rentre en 65. J'ai 25 ans à peu près. Un an et demi après, après avoir enseigné très peu, je suis directeur général de l'enseignement. Brusquement, nous sommes arrivés au pouvoir sans y avoir été préparés. J'ai appris beaucoup plus au cours de cette période. Et fatalement, nous avons fait beaucoup de bêtises.
Aimé Mambounialy, partagez-vous le point de vue d'Henri Lopez qui témoigne aujourd'hui sur RFI?
Ah oui, absolument. Beaucoup de bêtises, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, ce que je leur reproche, c'est d'avoir été sourd. Parce que...
Vous reprochez ça?
Ceux qui ont pris le pouvoir.
Donc
Henri
aux
Lopez,
jeunes,
aux jeunes, etc., jeunes, qui se sont emparés du pouvoir et ne voulaient rien entendre.
Alors justement, une question d'Héloïse Kyriakou sur cette jeunesse au pouvoir.
Finalement, quelle a été votre relation avec ces jeunes de la JMNR donc, qui ont pris le pouvoir à cette époque?
Moi j'étais opposée à ces jeunes. Ça, j'étais absolument contre, absolument. Et je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Moi je suis très franche quand quelque chose... Mais ils n'écoutaient personne. Tout le monde était devenu sourd et puis le gouvernement se croyait obligé. Je crois que le gouvernement avait peur des jeunes, avait peur d'être débordés, d'être assassinés, parce qu'ils étaient extrêmement violents. C'est eux qui enlevaient les gens la nuit et tout ça. Bon, donc tout le monde avait peur d'eux finalement. Et personne n'osait rien dire. En tout cas, je trouve que le gouvernement s'est dégonflé.
C'est eux qui ont enlevé, par exemple, Lazare Matsukota,
oui,
justement, Toibou.
Tout le monde le sait.
Et Aimé Mambounialy, c'est un épisode tragique, puisque et votre oncle et l'homme de votre vie, d'une certaine façon, vont être assassinés. Et vous relatez extrêmement précisément, dans un récit très documenté, cet épisode.
Là. Je l'ai vécu. J'étais chez mon oncle le jour où il a été enlevé, le soir où il a été enlevé. Je n'ai pas assisté à l'enlèvement de Matsukota. Mais mon oncle, j'ai vécu ça. J'étais là, du début à la fin. Je l'ai vu partir.
Et vous saviez que Matsukota allait
finir par
être
enlevé?
Il avait peur, en tout cas.
Oui, on savait que ça lui pendait au nez. Mais pas pour mon oncle. Et c'est après que j'ai su tout ce qu'il racontait, que mon oncle était en fait le complice de Matsukota. Ce qui est faux, faux. Moi, je me rappelle un soir, on était sortis et je lui ai dit, écoute, il ne m'a jamais raccompagné, il me laissait toujours quelque part dans la rue. Enfin, d'abord, on n'était pas ensemble, on avait chacun son moyen de locomotion, on arrivait, mais il ne m'accompagnait même pas. Parce qu'il ne voulait surtout pas. Un jour, je lui ai dit, mais écoute, au lieu qu'on se donne tant de mal pour se voir, viens chez mon oncle. Parce que je n'en avais parlé à mon oncle, qui avait dit, mais si tu veux le recevoir ici, dis-lui de venir. Alors je lui ai dit, écoute, tu sais, mon oncle te recevrait volontiers. Enfin, il accepte que tu viennes me voir à la maison. Il m'a dit, surtout pas.
Françoise Blum, donc on voit bien à la fois des années d'un espoir immense et des années de terreur presque.
Oui, tout à fait. Vous aviez quand même des relations avec des cadres du mouvement national révolutionnaire, du MNR, et avec certains membres. Je me souviens que dans votre livre, vous parlez de réunions qui avaient lieu. Vous citez même quelqu'un comme Abdoulaye Yerodia, qui prenait la parole dans des réunions publiques. Donc tout n'était pas à jeter non plus, c'est-à-dire qu'il y avait une effervescence.
Oui, absolument. Absolument.
« Portrait sonore de l'intellectuelle et écrivaine Aimée Mambouniali, ici à Paris Livre. Nous avons beaucoup parlé de la femme engagée en politique. Terminons, si vous le voulez bien, sur l'écrivaine et son premier roman, L'heure des femmes, que Henri Lopez a lu pour nous.
L'heure des femmes, j'ai vu que ça faisait référence à un proverbe vili qui dit « L'homme, c'est l'or ». C'est un titre qui n'indique pas la pensée de l'auteur, mais une constatation qu'elle regrette. Et je crois que ça dépasse le milieu vili. Du peu que je connaisse de mon pays, je crois que ça touche tout le Congo, et sans doute plus loin que le Congo, peut-être tous les pays bantous. Passer d'un genre, le récit, à celui du roman. Or, son roman est particulier parce que j'y vois trois dimensions. Il y a une dimension un peu de conte, de fable. Une dimension d'enquête sociologique évidente, très bien documentée. Et puis la dimension imaginaire. Et alors, je crois qu'elle a réussi son coup. L'intrigue à la fin est remarquable. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je crois que j'ai lu une partie du livre la nuit. C'est un livre, en tous les cas, qui va marquer. Ça ne m'étonne pas d'aimer. Quand nous étions étudiants, on disait « Aimer, ce n'est pas tout à fait une militante de la féanf, c'est une militante en soi par tempérament. » Et c'est une femme qui a toujours été libre. Lorsqu'elle révèle sa sexualité et celle de ses personnages, ce n'est pas habituel en Afrique. C'est en ça que son livre est nouveau, d'autant que ce n'est pas une histoire contemporaine. C'est une histoire qui se situe dans les années 20 ou 30, pendant la colonisation. Et puis il y a cette société vili, très structurée, que moi-même je ne connais pas bien. Et je dirais bravo, mais on ne peut être un écrivain que si on est sincère et qu'on dit la vérité. Merci de nous l'avoir dit et de nous avoir appris une partie de nous-mêmes.
Je vous laisse réagir, parce que si vous avez un fichu caractère, vous êtes aussi très ému, moi je le vois.
Oui, ben, il a toujours été... Vraiment, il m'a beaucoup aidé, hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et là encore, tout ce qu'il dit, là, s'il l'écrit, ça va m'aider beaucoup. Parce que je crois que... On n'a pas toujours compris le livre comme je l'aurais souhaité. Enfin, le peu que j'en ai eu d'écho me montre que... Bon, bah, ça c'est normal d'ailleurs aussi.
Pourquoi ? L'heure des femmes n'est pas compris comme vous le
ben,
souhaiteriez.
Et lui, il a très bien compris quand il dit... Il est parti de là. En fait, le livre part de là, de cette espèce ce que j'ai mis en exergue là. L'homme, c'est l'or. C'est tous les hommes qui sont. On considère que une femme qui n'est pas mariée ne vaut rien, parce que c'est l'homme qui vous donne la le poids qui est le vôtre. Et c'est l'homme qui fait la femme. Et donc, quand vous n'avez pas d'homme, vous n'êtes rien.
Et en tout cas, vous. Aimée Mambouniali, vous vous êtes faite toute seule. Aimée Mambouniali, Le pouvoir de la jeunesse congolaise, c'était une édition de La Marche du Monde, réalisée par Cécile Pompéani, avec Med Chablaoui et la complicité de nos deux historiennes, que je remercie infiniment, Héloïse Kiriakou.
Merci.
Et Françoise Blum, qui a eu l'heureuse idée de me suggérer de vous convier, Aimée Mambouniali, et je la remercie personnellement. Et je vous embrasse.
Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout.
Retrouvez-nous sur la page Facebook de l'émission. Écrivez, réagissez aux propos de Aimée Mambouniali. marche.monde@rfi.fr. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Mm-hmm. kosulola yo okoki kokufa ogogo Martin Luther King eloka kufeli tozali kokamwa ogogo aweli se boboto abato po babomba ye Martin Luther King akei Johnny Hallyday ye akoyembaka akopesa kabisengo Martin Luther King elembo ya boboto mandala mboka mao mao tetunge ye na Che Guevara basimbi mondo ketumba mao Tukanyi motema uo Ato salima la mumba Kutsundo la yo Poko kiko limwa uo Martin Luther King Eloka kufeli Tuzali kukamwa uo Aweli se bobo Tabato bomba bomba ye Martin Luther King